Un bateau manqué et une visite par temps perdu à un théâtre pour se divertir. Voilà qui a changé bien les choses. Car au lieu d'être du divertissement typique, voilà que M. Vincent entend l'Évangile, et cela pour la première fois de sa vie. L'évangéliste D.L. Moody avait loué la salle de théâtre pour l'occasion d'une campagne d'évangélisation. Touché, M. Vincent se convertit. La vie changée, il se met à chercher à gagner ses amis et ses connaissances, dont un certain Edward Studd, qui était à la retraite, étant revenu des Indes, où il avait fait une fortune. M. Vincent réussit, de peine et de misère, à amener M. Studd à une des réunions de la campagne d'évangélisation de M. Moody. Mais une fois que celui-ci a entendu l'Évangile, il continua d'assister aux réunions et se convertit. On est en 1877 en Angleterre.
Ma foi trouve enfin son repos, à Christ je viens briser. Je me fie non sur un credo, mais en son sang versé. Je n'ai plus besoin d'arguments, son plaidoirie est là. C'est assez que Jésus soit mort et qu'il soit mort pour moi. Que Jésus sauve me suffit, sa promesse j'y crois. Moi, grand pécheur, je viens à lui, par grâce il me reçoit. Je n'ai plus besoin d'arguments, son plaidoirie. Et là, c'est assez que Jésus soit mort et qu'il soit mort pour moi.
C'était fini son ancienne vie. Les courses de chevaux, etc., fini. Maintenant, il se donne en entier à faire connaître l'Évangile. Il se met à inviter des prédicateurs pour venir chez lui et prêcher l'Évangile à ceux qui accepteraient bien de venir entendre ce message précieux. Ses propres fils, les trois aînés, inconvertis, désintéressés, sont finalement gagnés, et le même jour, indépendamment, par un de ses prédicateurs invités par leur père. L'un de ses fils, Charles Thomas Studd, ou plus souvent juste appelé C.T. Studd, décrit ainsi sa conversion, où il a accepté le cadeau gratuit, le don gratuit du salut en Jésus-Christ. Je me suis mis à genoux et j'ai dit « merci à Dieu ». Et directement là, à ce moment précis-là, la joie et la paix sont entrées dans mon âme. Je savais que j'étais né de nouveau. Et la Bible, qui avait été si sèche et ennuyante pour moi auparavant, est devenue tout.
Sur la parole, je me fie, la parole. Salut est en Jésus-Christ par son sang pour qui veut. Je n'ai plus besoin d'arguments, son plaidoirie est là. C'est assez que Jésus soit mort et qu'il soit mort pour moi. Saint bien-aimé qui m'a sauvé, ô Jésus mon sauveur, en retour pour te remercier, voici prends tout mon cœur. Je n'ai plus besoin d'arguments, son plaidoirie est là. C'est assez que Jésus soit mort et qu'il soit mort pour moi.
Malheureusement, pour les prochains 6 ans, Charles laisse son cœur se refroidir et s'adonne tout entier à exceller au cricket. Il est devenu une sensation nationale dans ce sport. Son père meurt 2 ans après sa conversion et l'un de ses frères, bon joueur lui-même au cricket, était vraiment en feu pour le Seigneur. Il jouait au cricket, mais ce n'était pas sa passion. Le Seigneur Jésus était sa passion. et le faire connaître était ce qui était sur le cœur de son frère J.B. Studd.
En feu pour le Seigneur, sois en feu pour Dieu mon cœur, que mes latideurs soient consumées et que mes distractions soient brûlées. En feu Seigneur, je veux être enflammé pour toi. Gagner à Jésus, que le feu duquel ils sont si près me motive à les en arracher. En feu Seigneur, je veux être enflammé pour toi, Seigneur.
Deux vieilles dames priaient et persévéraient dans la prière que Dieu ramène le jeune Charles de son rétrograde. Dieu a répondu à leur prière justement par J.B. Studd. Celui-ci tombe malade, très malade. À son chevet, présumant que son frère est sur son lit de mort, C.T. Studd se mit à réfléchir sur son frère et ses valeurs. Maintenant, que vaut toute cette popularité du monde à George? Qu'est-ce que vaut toute la gloire et la flatterie d'être une personne fameuse? Qu'est-ce que ça valait de posséder toutes les richesses de ce monde quand un homme vient être face à face avec l'éternité? Une voix semblait lui répondre « Vanité des vanités, tout est vanité ». Est-ce que ça valait vraiment la peine de poursuivre l'honneur et la gloire de ce monde? Le sport, le cricket, n'étaient que des choses passagères. La gloire qu'il avait d'être un star, cette gloire fuirait bien vite, elle aussi. Qu'est-ce qu'il aura dans l'éternité de tout ça? Rien. Non, valait mieux vivre pour le Seigneur, sa cause éternelle, sa mission. Dieu a utilisé cet événement pour réveiller l'esprit de Charles. Il a épargné aussi son frère, qui en fait s'est remis de sa grave maladie.
En feu d'un feu du ciel, pur et sage et non charnel, que mon cœur soit entier de ferveur, plein d'amour, de foi et de douceur. En feu, Seigneur, je vais être enflammé pour toi, Seigneur. En feu et dévoué à mes frères bien-aimés, suivre le modèle de Jésus, servir humblement sans retenue. En feu Seigneur, je veux être enflammé pour toi, Seigneur.
Pour quelques mois, Charles s'est mis à chercher la face de Dieu sur sa volonté dans sa vie. Où aller? Que faire? Comment le servir? En cherchant la face du Seigneur à ce sujet, il a vu son propre besoin de recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Et voyant ce besoin biblique, avec la foi simple, comme celle d'un enfant, il a reçu cette plénitude dans un abandon total à la volonté de Dieu et la foi en la promesse de Dieu. La réponse de Dieu ensuite ne tarda pas à venir. Dieu l'appelait à servir à temps plein et à aller en Chine comme missionnaire. Sa famille s'y opposait, mais pour lui le choix était clair, servir Dieu et abandonner sa famille ou préférer sa famille à Dieu, ce qui lui était impensable. Sa famille trouvait qu'aller en Chine ferait qu'il gaspille ses talents et ses prouesses. Il pourrait se servir de sa grande influence et sa notoriété en Angleterre, pour influencer beaucoup de jeunes gens pour le Seigneur. Ça serait mieux que d'être perdu quelque part à l'intérieur de la Chine. Mais devant toute l'opposition humaine, c'était à Dieu qu'il voulait obéir. Et, cherchant vraiment la pensée du Seigneur sur ce qu'il devait faire, il tomba sur le passage de Matthieu 10, 26. « Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » À partir de là, il n'avait pas de recul, ni de regard en arrière. Pour la Chine, il s'est préparé et est allé sous la mission de Hudson Taylor. Il avait 23 ans. Servant Christ comme missionnaire en Chine, il était là 2 ans avant d'hériter une fortune laissée par son père, qu'il savait qu'il allait toucher à l'âge de 25 ans. Mais pour lui, les choses étaient claires. La parole de Dieu allait le guider.
En feu pour la parole, en fer avis ma boussole. Oui, l'avenir et l'entendre prêcher, mettre en pratique ses vérités. En feu, Seigneur, je veux être enflammé pour toi, Seigneur.
La parole était claire. Luc 12, 33 dit, « Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. » Matthieu 6, 33, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point. » et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Il avait eu le temps d'y penser, et quand il est arrivé à l'âge d'avoir son héritage, Dieu lui rappela son engagement à cet effet, et c'est ce qu'il a fait. Il a écrit 4 chèques de 5 000 livres et 5 chèques de 1 000 livres, tous des dons à des œuvres missionnaires et chrétiennes. Plus tard, s'étant garanti du montant exact de son héritage, il fit d'autres dons, se laissant un dernier 3400 livres en sa possession. Rentre dans l'histoire une personne qui va lui devenir importante. Dans sa mission, travaillant ailleurs en Chine, était une jeune femme irlandaise qui avait elle aussi accepté l'appel missionnaire après s'être convertie. Dieu les ayant mis en contact l'un avec l'autre, ils ont clairement vu le Seigneur vouloir les unir pour servir ensemble en tant que mari et épouse. Avec ce dernier 3400 livres qui restaient et la date de leur mariage qui s'approchait, c'est elle qui l'encouragea. « Charlie, qu'est-ce que le Seigneur a dit au jeune homme riche de faire? De tout vendre. » Vint donc cette réponse. « Alors, donc, nous commencerons devant le Seigneur étant clairs de tout à notre mariage. »
Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur.
Il donna en don les derniers 3400 livres qui lui restaient, et pour commencer leur mariage n'avait qu'un peu d'argent, l'argent qu'il avait avant de recevoir son héritage. Ont-ils regretté ce sacrifice? Ont-ils regretté ce pas de foi? Pas une seconde. Ils croyaient dans la promesse formelle qu'ils verraient un bénéfice au centuple de tout ce qu'ils donnaient.
Par la foi, je marcherai en comptant sur tes promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur.
De fait, choisissant de vivre d'une façon simple, même pour leur mariage, ils n'ont pas acheté d'habits de mariage, ils ont mis juste des habits qu'ils possédaient déjà. C'était pour eux la manifestation de ce qui comptait vraiment. Pas cette vie, pas les conforts de cette vie, mais le trésor au ciel, ce qu'ils pouvaient faire qui compterait pour l'éternité. Ça, c'était ce qui comptait. Dieu a pourvu à leurs besoins. Ils ont appris à vivre autant dans l'abondance que dans la disette. Et ils ont vu Dieu pourvoir par des façons inattendues et juste à temps, en nombre d'occasions. Ils n'étaient pas obligés de faire ainsi. Ils ont choisi de donner tout cet héritage et de vivre au jour le jour par la foi dans la provision de leur Dieu. Ils ont appris à être heureux en étant pauvres aux standards de ce monde par choix et par sacrifice personnel pour la cause des missions, de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais entre se fier sur cette bonne marge de manœuvre qu'aurait pourvu leur héritage et s'attendre à Dieu de jour en jour, il n'y a pas de comparaison. Rien qu'un exemple d'un moment où ils arrivaient à zéro dans leur fonds pour vivre, et voilà que le postier partait pour chercher la poste et serait de retour dans 2 semaines, et en dehors de cela, aucune autre communication avec l'extérieur venait. Dans la prière pour la provision de Dieu, au retour du postier, leur sac était donné et le voilà vide en termes de dons. Aucune des lettres n'avait des provisions. Tournant le sac à l'envers et secouant fort, une dernière lettre finit par tomber, dont ils ne reconnaissaient pas l'expéditeur. Voyant la signature au bas de la lettre, ils ne connaissaient pas du tout la personne. La lettre disait « J'ai reçu, pour une raison ou une autre, de Dieu l'ordre de vous envoyer un chèque de 100 livres. Je ne vous ai jamais rencontré, je n'ai qu'entendu parler de vous, et cela très peu, mais Dieu m'a empêché de dormir par cet ordre. » Pourquoi il me commande de vous envoyer ce chèque, je ne le sais pas. Vous le saurez mieux que moi. Dans tous les cas, le voici, et j'espère que cela vous aidera.
Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que
Pour 10 ans, ils ont servi en Chine dans la bataille spirituelle pour les âmes des gens. Ils ont connu de grandes difficultés autant que de grandes victoires. Une de ces grandes victoires est celle-ci. Un homme, à la fin d'une réunion, tout en arrière, a répliqué au message qui venait d'être apporté sur le texte d'Hébreux 7:25. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Le reste de la congrégation étant parti, l'homme disait « Ce que vous dites là ne fait aucun sens. Je suis un meurtrier, je suis un adultère, j'ai brisé toutes les lois de Dieu et des hommes, fois après fois, je suis un accro confirmé de l'opium, il ne peut pas me sauver. » Lui montrant l'Évangile, il s'est converti, et non pas d'une vaine profession de foi, c'était sérieux. C'était un homme transformé. Il a dit « Je dois retourner à la ville où j'ai commis tous ces crimes et je dois leur porter la bonne nouvelle. » Il l'a fait et a suscité des foules. Puis les autorités locales l'ont pris pour le faire battre de 2000 coups de bambou. Étant laissé pour mort, quelques amis l'ont pris et l'ont soigné. Une fois mieux, il est retourné pour prêcher l'Évangile encore. Cette fois, gêné de le faire battre de nouveau, ils l'ont mis en prison. Mais de là, il prêchait aux gens dans la rue, à partir de sa petite fenêtre. Exaspéré de ne pouvoir le faire taire, les autorités l'ont finalement libéré. Les Stodes quitteraient la Chine, non pour cause de maladie. Ils ont en fait tous les deux frôlé la mort plusieurs fois pour cause de maladie. Non, ils ne quitteraient pas à cause des difficultés de santé, mais seulement à la direction du Seigneur. Ce que le Seigneur donna après 10 ans de service en Chine. Les Stodes quitteraient la Chine, non pour cause de maladie, ils ont en fait les deux frôlé la mort pour cause de maladie, non, ils ne quitteraient pas à cause des difficultés de santé, mais seulement à la direction du Seigneur, ce que le Seigneur donna après 10 ans de service en Chine. Ils avaient 4 petites filles de bas âge et n'avaient pas de fonds pour faire le voyage. Mais ils l'ont fait par la foi, et Dieu a aidé à retourner en Angleterre, laissant des églises de gens derrière qui s'étaient convertis, continuer pour sa gloire. Ils ont récupéré dans leur santé et ont eu un ministère en Angleterre et aux États-Unis auprès de nombreux étudiants dans les écoles bibliques. De 1900 à 1906, Dieu les conduit en Inde pour œuvrer là. Dieu lui avait donné à cœur les Indes depuis sa conversion, et voilà que là, l'appel était pour y aller. C'était justement ce M. Vincent, qui lui aussi avait fait fortune en Inde, qui lui est rappelé le désir de son père, M. Edward Studd, que son fils aille aux Indes pour prêcher l'Évangile. C'était en Inde que leurs quatre filles ont décidé de personnellement suivre le Seigneur et de se faire baptiser. Dans la présence d'autres missionnaires, il eut la joie de baptiser lui-même ses quatre filles. De retour en Angleterre, Dieu a pourvu d'une façon spéciale pour l'éducation de leurs quatre filles. Pour eux-mêmes, sans provision, mais Dieu n'est pas limité. Mais à l'âge de 52 ans, la santé brisée par son service en Chine puis en Inde, le test d'un pas de plus par la foi pour le Seigneur est venu. Un missionnaire allemand, Charles Combe, lui partageait à propos des vastes régions d'Afrique où il n'y avait aucun missionnaire. Saisissant cette nouvelle, l'appel de Dieu était clair dans son cœur de son devoir d'y aller et de former une mission pour tâcher d'aller là où Christ n'avait jamais encore été prêché. « Impossible, lui disait-on. Même son épouse n'y voyait pas la sagesse de Dieu. Il avait la santé brisée. Il avait 52 ans. Mais par la foi, il était prêt à aller où Dieu le voulait. Et ça, c'était à ceux qui n'avaient pas encore reçu la parole de Dieu. »
Seigneur, puisque tu mourus pour me donner la vie, le sacrifice de mon cœur ému serait bien trop petit. J'irai où tu voudras, mais accompagne-moi, charge-moi autant qu'il le faudra, mais soutiens ma foi, défais tout lien, sauf celui tissé par ton amour. Ô Jésus, mon roi, je m'abandonne à toi pour toujours. Je te suivrai, Seigneur, pour vivre sous ta croix. Je laisse le monde et ses attraits, mes gains ne comptent pas. J'irai où tu voudras, mais accompagne-moi, charge-moi autant qu'il le faudra, mais soutiens ma foi, défais tout lien, sauf celui tissé par ton amour. Ô Jésus, mon roi, je m'abandonne à toi pour toujours.
Par la foi, il croyait fermement que Dieu ne serait pas limité par la faiblesse de sa santé et de son âge. Bien au contraire, dans la faiblesse, c'est là que la puissance de Dieu serait le plus manifeste. 2 Corinthiens 12, 9 et 10, « Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Il s'embarqua donc par la foi et par obéissance à ce que lui poussait de faire le Saint-Esprit, accompagné d'un jeune homme de 21 ans, Alfred Buxton, convaincu aussi de suivre l'appel du Seigneur à atteindre ses âmes perdues du milieu du continent africain. C'était loin, c'était dans les régions dangereuses, autant par rapport aux maladies tropicales que les cannibales. Ils étaient anglais, la région était sous administration belge. Jamais ils auraient permission, leur a-t-on dit. Jamais ils auraient la santé de faire le voyage et l'œuvre une fois rendue. Impossible, impossible, impossible aux yeux humains. Mais aux yeux de la foi, en la toute-puissance de Dieu, devant le clair commandement d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, comment pourrait-il être incrédule et ne pas croire que Dieu ne pourrait pas les rendre dans cette énorme région, pleine de nombreuses tribus, qui n'avaient jamais encore entendu le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ? Les yeux de la foi sont des yeux qui voient clairement. Le doute et la confusion ne vont pas de pair avec la foi et l'obéissance dans la parole de Dieu. Ils savaient que Dieu les appelait à y aller, et par la foi, ils ont, pas à pas, fait tout pour se rendre jusqu'au bout du chemin qui les mènerait où Dieu les voulait.
Qu'il est doux de croire en Jésus, simplement le prendre au mot, se fier à ses promesses, en lui trouver le repos. Jésus, Jésus, tendre maître, que tu es digne de foi. Jésus, Jésus, précieux Jésus, que ma foi grandisse en toi. Qu'il est bon et doux de prendre sa sûre parole telle, se satisfaire à entendre ainsi parle l'Éternel. Jésus, Jésus, tendre maître, que tu es digne de foi. Jésus, Jésus, précieux Jésus, que ma foi grandisse en toi.
Dieu travailla bien aussi dans le cœur de Madame Stodd, qui bien vite était convaincue de l'appel pour Charles d'y aller et de commencer cette œuvre en Afrique. Elle-même, ne pouvant y aller, étant convaincue que Dieu voulait qu'elle le serve en Angleterre pour l'organisation et la paperasse, les lettres, etc., de tout ce qui concernait la mission. Même après avoir été déclarée invalide et devant être au lit 12 heures par jour, elle se poussait et a accompli le nécessaire pour l'organisation de la mission à partir de l'Angleterre. Dieu a appelé bien des missionnaires pour aller se joindre à l'œuvre de City Stodd en Afrique. Plusieurs missions ont été établies, les églises dans des tribus commencées, les convertis formés dans les vérités de la parole de Dieu. Et tout cela sans qu'aucun dans leur mission ne demande des dons. Ce n'était qu'au Seigneur qu'ils sont allés pour l'implorer à pourvoir pour tous les besoins et les fonds nécessaires. Ils se confieraient en Christ, car il est bon et doux de mettre sa confiance en Jésus, le Tout-Puissant, le Sage. Des batailles spirituelles, ils en ont vu, contre le prince de ce monde, qui n'allait pas lâcher prise de toutes ces régions enténébrées sans faire payer le prix. Mais le prix a été payé. Les heures dans la prière, la prédication de la parole, l'appel à la repentance et la foi en Christ, avec les œuvres dignes de la repentance, la confrontation du péché et la confrontation à la tentation de ne croire que de la tête sans changer, les difficultés entre missionnaires, les attaques du diable, le besoin sans cesse de s'attarder dans la prière pour surmonter toutes les difficultés, les maladies, les épreuves, tout cela se passait à travers ces années-là. Certes, la mission qu'il établit, fort à bien des points, n'est peut-être pas le modèle en tout point à certains égards de doctrine, mais l'exemple en matière de foi et d'obéissance, de feu et de flamme, de soumission au Saint-Esprit, apprenons-en.
Lui faire encore plus confiance et du péché renoncer. pensée, mettre en lui ma dépendance, soumis à sa volonté. Jésus, Jésus, tendre maître, que tu es digne de foi. Jésus, Jésus, précieux Jésus, que ma foi grandisse en toi.
Son âge avançait et il était critiqué de rester sur le champ missionnaire. Ça vaudrait la peine de lire un extrait d'une de ses lettres pour voir son cœur, sa passion, sa foi, son obéissance au Seigneur Jésus, qui l'avait poussé à rester tant que le Seigneur ne faisait pas clair de quitter. Dans cet extrait, il répond à quelqu'un qui pensait qu'il devait retourner en Angleterre. Si je me serais inquiété des commentaires des gens, je n'aurais jamais été un missionnaire. Il n'y aurait jamais eu une mission pour atteindre le cœur de l'Afrique, comme celle que nous avons établie. Comme Miché dit, « La parole que Dieu me donne à dire, je le dirai. » Alors l'œuvre que Dieu me donne à faire, je ferai tout en mon pouvoir pour l'accomplir, ou je mourrai dans le processus. Voyant qu'il y a une quarantaine d'années, selon le commandement de Dieu, j'ai quitté ma mère, mes frères, mes amis, ma fortune et tout ce qui est compris d'habitude comme étant ceux pour lesquels il vaut la peine de vivre, et ayant continué ainsi depuis ce temps-là jusqu'à maintenant, ayant été appelé un fou et un fanatique fois après fois, mais j'ai vécu de manière à démontrer que les conseillers de ce monde sont ceux qui sont fous. Je ne crois pas que j'aimerais finir en étant apeuré à faire mon devoir par les commentaires des hommes. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme, ne constitue pas un très bon oreiller pour un homme mourant. Mais il y a beaucoup de consolation dans cette autre phrase. Heureux, celui qui se confie dans le Seigneur. Et pensez-vous que je puisse consentir à ignorer les cris de ces gens qui veulent tellement entendre l'Évangile et qui ont une soif aiguë d'avoir des personnes pour les enseigner? Si je ne peux pas leur envoyer des enseignants parce qu'il n'y a pas d'enseignants à leur envoyer, eh bien, au moins, je peux remplir au moins quelque peu le trou béant moi-même. Si je ne suis pas aussi efficace que les jeunes dans la force de leur âge, au moins je suis plus efficace qu'un absent, que personne. Et si d'autres ont manqué à entendre et à répondre à l'appel désespéré d'hommes pécheurs qui s'en vont en enfer, qui cependant désirent savoir comment aller au ciel, au moins ma présence peut les assurer qu'il y a toujours quelques-uns qui, pour les sauver, comptent la vie et tout ce qu'ils ont de chair comme n'étant rien en comparaison. Dieu connaît tout de ma santé et de mon besoin de repos et de tout ce qui est considéré comme étant absolument nécessaire d'avoir afin de pouvoir vivre dans ces régions-ci. Je ris de joie devant le fait que je n'ai rien de tout ça et je me réjouis à être un mort vivant avec une joie merveilleuse afin de remplir la place que d'autres ont laissée inoccupée, peu importe leur raison pour faire ainsi.
Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus? Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame.
La conversion de bien des cannibales, d'hommes violents, de débauchés, ont produit des fruits de repentance à la gloire de celui qui était mort pour eux. Bien de ces convertis ont payé le prix pour leur foi en Jésus-Christ. Prenons pour exemple Adzingwe, l'un des pires cannibales et leaders du crime, plein de débauche. Une fois sauvé, plein de zèle pour le Seigneur, il est allé évangéliser un nombre de chefs d'autres tribus voisines. Il a été emprisonné pour sa foi et son témoignage, et, en prison, il en a amené plusieurs au Seigneur. Un autre converti a été battu pour sa foi, et une fois battu, s'est levé pour aller serrer la main du chef qui l'a fait battre, pour le remercier du privilège de souffrir pour le Seigneur Jésus. Cela l'a fait être battu de nouveau, et après la deuxième fois, il est resté à terre pour prier pour le chef. Cela l'a fait être mis en prison. D'autres chrétiens sont ensuite allés voir le chef pour lui demander de leur maltraiter aussi, puisqu'ils croyaient dans le même Seigneur que l'autre. Ce fruit, bien encourageant, ne fit pas perdre à Cittistod la grande soif d'aller toujours plus loin, toujours plus loin, atteindre de nouvelles régions, de nouvelles tribus, pas vivre pour son propre confort personnel, vivre aussi simplement que possible pour pouvoir maximiser son implication et son travail pour le roi des rois, pour le seigneur des seigneurs, pour l'évangile et la conversion des âmes perdues. Telle était la vision de celui qui renonçait à la haute vie de luxe qu'il avait connue comme star nationale du cricket. Tel était le battement de cœur de celui qui donna en entier son héritage pour se fier plutôt à la provision jour au jour du Seigneur. Telle était la vision qu'il donna à ceux qu'il formait comme disciples. Telle était la vision qu'ont attrapé plusieurs de ceux qui s'étaient convertis et qui eux aussi voulaient aller au-delà pour gagner de nouvelles tribus au loin. Le premier, en 1930, un petit homme insignifiant, humainement parlant, du nom de Zamu, handicapé d'un pied à cause d'un ulcère, sentit que Dieu l'appelait comme missionnaire, comme Dieu l'avait fait pour M. Stodd, Bwana, comme il était connu par les Africains. Il était questionné, question de voir le sérieux de ses convictions d'appel. « Et que dire de ton pied, Zamu ?»« Dieu est vivant !» vint la réponse. « La nourriture là-bas est bien différente. » Pas d'huile de palme, pas de sel, Dieu est vivant. Tu risques de mourir de faim ou d'être tué, Dieu est vivant. Et qu'en sera-t-il de ta femme, Zamu? Elle viendra avec moi, Dieu est vivant. Oui, le Dieu de Zamu était bien vivant. Et avec foi en ce Dieu vivant, Zamu est parti à des centaines de kilomètres au sud vers des tribus ennemies. Reçu assez bien au début, surtout par la curiosité et l'étonnement suscité de voir un Africain qui ne buvait pas, qui ne commettait pas de débauche, qui n'était pas colérique. Mais après, les choses sont devenues assez froides quand ils ont compris que son message de repentance coupait droit dans leur désir de continuer à pécher. Le message qu'il leur apportait était le même que M. Stodd avait apporté dans le centre de l'Afrique. C'était le message que Christ avait apporté lors de sa venue. Ce n'est pas un message flatteur. Non, un message de profonde repentance.
Parmi la foule, les invités, quel est devant la porte l'homme qui vante les qualités et les vertus qu'il apporte? Vient sans mérite, sans autre gage qu'un très profond repentir au cœur. Non comme un juste, non comme un sage, mais comme un pauvre pécheur. À ceux qui disent comment donner le prix qui nous rachète, notre évangile répond, venez, simplement tel que vous êtes. bien sans mérite, sans autre gage qu'un très profond repentir au cœur. Non comme un juste, non comme un sage, mais comme un pauvre pécheur. Jésus accueille le péager et la Samaritaine, l'âme accablée, le cœur chargé, tout ce que lie une chaîne. Viens sans mérite, sans autre gage qu'un très profond repentir au cœur. Non comme un juste, non comme un sage, mais comme un pauvre pécheur. Entrez coupable, fuyez le sort que le péché mérite, car pour l'injuste, le juste est mort, et notre entrée est gratuite. Viens sans mérite, sans autre gage qu'un très profond repentir au cœur. Non comme un juste, non comme un sage, mais comme un pauvre pécheur.
Zamu et son épouse seraient bien morts de faim, abandonnés et rejetés par ces gens qu'il essayait de gagner. Mais le frère du chef se convertit et l'aida en partageant sa nourriture avec lui et son épouse. À partir de ce premier missionnaire africain, la vision missionnaire s'est multipliée dans le cœur des autres convertis, et d'autres sont allés pour le rejoindre dans son œuvre. D'autres sont partis pour atteindre d'autres nouvelles régions et d'autres tribus. Cette vision missionnaire qui fit partir Sitis Todd pour l'Afrique s'est perpétué chez les Africains convertis pour se propager dans le continent. Certes, peu en pourcentage ont accepté de se convertir, de se repentir, mais pour les quelques-uns le faisant, quelle gloire à les atteindre avec l'Évangile! Cette vision missionnaire, elle est biblique. Et elle est de jour. Il y a encore des régions qui n'ont jamais entendu. La passion à partager sa foi, Sitis Todd l'avait autant en Angleterre quand il y était, qu'en Afrique. Cette passion pour les millions, ça commence par une passion pour l'âme du voisin. Cette passion commence une âme à la fois. L'avons-nous, cette passion, cette compassion? Que ceci puisse être notre prière.
Oh, mets une âme sur mon cœur, Seigneur, je veux l'aimer. Pour toi qui es le pécheur, je voudrais la gagner. Seigneur, mets tes paroles en moi, conduis par ton esprit. Je voudrais parler de la croix, où pour elle tu souffris.
Les dernières quelques années de sa vie, malade, fatigué, épuisé, Sitis Todd entreprit et s'acharna sans repos à finir ce qui lui était tellement cher au cœur, de traduire la parole de Dieu en Kingwana, une langue marchande, une langue simple, de commerce, que nombreux tribus connaissaient pour le commerce entre tribus. La parole de Dieu avait été traduite en certaines langues tribales, mais combien de tribus n'avait encore rien de la parole de Dieu écrite. Cela pesait tellement lourd sur son cœur. C'est la parole de Dieu dont l'homme a besoin, partout où l'homme est sur cette terre.
Oh, la parole pour le monde, oui, pour le monde entier. Oh, qui paiera le plus grand des coûts, que tout s'y est taxé.
Oui, Sitis Todd était prêt à payer le coût de leur donner la parole de Dieu. Il se donna donc corps et âme au travail de traduire la parole de Dieu et réussit à aboutir. Il finit le Nouveau Testament. Il paya le coût parce que le Nouveau Testament le finit aussi, car quelconque force qui lui restait y était passée au complet dans ce projet si important. Il réussit aussi à traduire les psaumes et un peu des proverbes avant que le Seigneur ne le rappelle. Cet homme, né en 1860, converti en 1878, dédié à Christ en 1884, s'est donné jusqu'à la fin, sans relâche, jusqu'à sa mort en 1931, à Imbambi, au Congo. Que de souffrance à la fin, mais oh, quelle joie d'avoir fini sa course fidèlement, sans que sa passion ne diminue d'un iota. Il ne regrettera jamais s'être donné à Christ et de l'avoir suivi, pas à pas, par la foi et l'obéissance, pour accomplir ce qui avait été dit d'être impossible. Son épouse est décédée 3 années avant lui. Les derniers 18 ans de sa vie, il n'avait vu sa femme que 2 semaines, lui étant en Afrique, elle en Angleterre, pour organiser la mission. Elle avait réussi à faire le voyage une fois pour voir la mission. Ce sacrifice, d'être si loin l'un de l'autre, ils l'ont fait, non par plaisir, mais pour la grande commission, pour le Seigneur Jésus-Christ, pour la cause de l'Évangile et leur désir ardent de faire tout en leur pouvoir, de le faire connaître aux millions qui ne l'avaient jamais encore entendu. Non, ils n'avaient pas abandonné leur responsabilité familiale, et aussi Dieu leur donna leurs 4 filles et leurs 4 gendres en temps et lieu, à le connaître et à le servir. Ils avaient été fidèles à bien élever dans le Seigneur leurs filles quand ils les avaient encore dans leur foyer, et pour la suite, ils ont confié leurs filles et leurs familles respectives au Seigneur pour ce qui concernait chacun. Le dernier a décidé à vraiment suivre le Seigneur fidèlement. Un de leurs 4 gendres le fit finalement l'année où City Stud est décédé. Dieu est fidèle, il vaut la peine de lui obéir et de s'attendre à lui. Quel héritage! Un héritage qui a continué une fois que M. et Mme Stud ont passé de ce monde à leur héritage céleste. La mission a continué. Des missionnaires se sont ajoutés. Dieu a pourvu les fonds nécessaires. L'Évangile, pour ceux qui n'avaient jamais encore entendu, était toujours au cœur de ceux qui ont répondu à l'appel avec les Stud. L'œuvre des Stud n'était pas l'œuvre des Stud. C'était l'œuvre de Dieu. L'œuvre des Stud était fidèle à la Bible en bien des points. Pas en tout point, mais apprenons des points où ils étaient fidèles. Et cela, sans contredit, est le degré brûlant de dévouement, de foi et de simple obéissance à la grande commission donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Nous aussi, prêchons l'Évangile partout où l'on est, mais cherchons particulièrement à œuvrer pour atteindre ceux qui n'ont jamais encore reçu la parole de Dieu. Chrétiens, qu'en est-il de nous? Sommes-nous endormis? Sommes-nous ralentis, soit par manque de foi, par manque d'obéissance, par manque de passion, par manque d'amour pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Ou faisons-nous vraiment le maximum pour vivre pour les choses éternelles? Peut-être n'est-on pas encore converti. Venez à moi, dit Jésus. Sans tarder, repentez-vous et venez à Christ. Pour nous qui sommes déjà venus au Seigneur, faisons quelque chose avec ce qu'on a entendu aujourd'hui. Est-ce que Dieu nous appelle à prêcher la parole, à être missionnaires, à apporter l'Évangile dans de nouvelles régions? Cherchons-nous la face de Dieu à cet égard? Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Demande encore le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Notre réponse est-elle comme celle d'Ésaïe? Seigneur, me voici, envoie-moi. Oh, la parole pour le monde, oui, la parole de Dieu. Oh, qui ira jusqu'au bout du monde pour la parole de Dieu? Oh, la parole pour
pluie pour ce monde perdu. Ô qui paiera le plus grand des coûts pour le Seigneur Jésus. Ô la parole pour le monde, oui pour le monde entier. Pour ce, il faut d'ici jusque-là la croire et l'observer.